lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
Un mot d'abord, chers auditeurs, d'un livre de Jean-Denis Bredin de l'Académie française qui vient d'être publié chez Grasset sous le titre « Trop bien élevé ». Ce sont des souvenirs d'enfance de Jean-Denis Bredin, qui est né avant la guerre. Et pour tous ceux qui ont connu cette période de l'entre-deux-guerres, de l'occupation, ce livre extrêmement pudique, mais extrêmement émouvant, très sensible comme tout ce qu'écrit Jean-Denis Bredin, est une merveilleuse leçon d'histoire, d'éducation dans un milieu bourgeois extrêmement rigide. Il résulte de la lecture de ce livre un sentiment de mélancolie, mais également de tendresse. C'est vraiment un livre qui est à recommander par son côté émouvant, l'élévation de sa pensée et la splendeur du style. Mais je voudrais consacrer l'essentiel de cette émission à un livre d'une nature toute différente, qui est une biographie, celle de Georges Clémenceau par Michel Vinocq, publié aux éditions Perrin. C'est un gros livre qui est, je dirais même avec modestie, une biographie linéaire de Georges Clémenceau, personnage hautement controversé, mais figure emblématique de la République, dont il faut quand même rappeler que la vie politique s'étale de la Commune à la fin des années 1920. Clémenceau est présent dans la vie publique pendant plus de 50 ans, on peut dire presque 60. Il aura connu, fréquenté tout ce qui compte en France, de Thiers, Victor Hugo, Gambetta, jusqu'à Briand, Poincaré, et ses interlocuteurs du traité de Versailles comme Wilson et Lloyd George, en passant par Jules Ferry, par Boulanger, par Zola, mais aussi par Peggy, Anatole France et Claude Monet, dont il fut un ami intime. Maire de Montmartre au moment de la Commune, médecin des pauvres à Paris et dans sa Vendée natale, député, puis après une assez longue interruption, sénateur, il aura eu une carrière tourmentée. Cet homme politique n'arrivera au pouvoir que dans les années 1900, vers 1905-1906, tardivement, puisqu'à l'époque, il a 65 ans. Des images d'Épinal s'attachent à sa personnalité. Le tigre, tombeur de ministère, Dreyfusard de choc, premier flic de France lorsque ministre de l'Intérieur, dans les années 1905-1908, il aura affronté des grèves très dures. Et puis, le père la victoire, puisqu'il sera président du Conseil sous la présidence de Poincaré dans l'année finale, l'année qui conduit à la victoire. Et il sera, avec ses homologues étrangers, le constructeur d'une Europe nouvelle. C'est un homme de combat qui aura bien des inimitiés. Sa lutte contre Jules Ferry, contre Briand, qu'il détestait. Il y a ce mot de lui qui est féroce. Quand j'aurai un pied dans la tombe, j'aurai encore l'autre dans le derrière de ce voyou, disait-il à propos de Briand. Il n'aimait guère Poincaré. Il avait la dent très dure. Mais c'était un homme d'une personnalité extraordinaire. Fin lettré, philosophe. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce portrait que cite Michel Vinocq dans ce beau livre, un portrait qu'il a publié dans la presse autrichienne et reproduit à l'identique dans l'Humanité en 1906. Je cite « D'esprit, il est souple et divers, de caractère, il est vif et cassant. Je ne le fâcherai pas en disant qu'il y a des choses qu'il préfère au pouvoir. Il a le sens de l'action et l'on peut dire que pour lui vivre, c'est agir. Mais en même temps, il est philosophe et plus tendu sans doute vers l'action intellectuelle qu'il ne convient à un chef de gouvernement. Il a montré ses tendances philosophiques quand ministre de l'Intérieur, il était déjà tout le ministère avant d'en être le chef. Alors il a opposé aux socialistes des doctrines d'un agnosticisme social sans doute grave et mélancolique, mais étranger à coup sûr, à tous les chefs de gouvernement qui se sont succédés en France. Bien qu'il n'ait jamais varié dans ses doctrines et qu'il soit aujourd'hui, comme en 1870, républicain, libéral et patriote, il surprend par l'imprévu de ses idées. Immuable dans ses principes, il se montre dans leur application d'une agilité déconcertante. L'unité profonde de son esprit est pleine de contrastes apparents. Libéral de naissance, il est de caractère et d'esprit homme d'autorité. Il est révolutionnaire et exècre la démagogie. Humain, généreux, sensible, il est en même temps impitoyable et farouche. Il est terrible et charmant. Il attire et effare. C'est le plus nerveux orateur de son temps. Il possède l'art d'écrire. Voilà le personnage. Ce qui me paraît le plus intéressant et qui résulte très clairement du livre de Vinocq, c'est qu'il est un héritier direct et avoué de la Révolution française. Il est le symbole même de la gauche républicaine. Et quand je dis gauche républicaine, c'est la gauche exempte, écartée de tout dogmatisme de type marxiste. Il est la gauche sans le socialisme idéologique. L'état de droit, le respect du droit, la liberté des individus et des groupes, la laïcité bien comprise, non pas dans un esprit d'étroit anticléricalisme, mais la laïcité dans son principe, la justice sociale, le refus du colonialisme, les droits de l'homme, ce sont ces éléments de doctrine. Et lorsque sa carrière politique de parlementaire s'interrompra à partir de 1892, car il aura connu quelques difficultés après l'affaire de Panama, il se consacrera entièrement au journalisme et à la défense de Dreyfus, dont, dans un premier temps, la culpabilité lui paraît non pas certaine, mais possible. Mais quand il sera convaincu de l'innocence de Dreyfus, il se battra plus que tous les autres, et c'est lui qui convaincra Zola de se lancer dans cette campagne du J'accuse. Écarté de la vie politique au moment de l'élection de Deschanel, qui succède à Poincaré en 1920, il aura une immense popularité, voyagera à travers le monde, ce qui montre son ouverture d'esprit, mais se retira comme un Romain de la grande époque, à l'écart de toutes les responsabilités. C'est une des plus grandes figures de la République, incontestablement quelqu'un qui, à beaucoup d'égards, est et demeurera toujours contesté, mais je crois que par cette biographie sans tapage, Michel Vinocq lui aura rendu le service de l'équité et nous montre ce que pouvait être un homme politique de haute culture, de forte conviction, qui ne travaillait pas, si vous voyez ce que je veux dire, pour le journal de 20 heures. Je recommande donc vivement la lecture du Clémenceau de Michel Vinocq, paru chez Perrin. Et pour terminer cette chronique, je voudrais me référer à un événement d'actualité qui est le tricentenaire de Vauban, dont on parle beaucoup. Un livre apparu aux éditions Scala de correspondance choisie du maréchal de Vauban, publié par Guillaume Mont-Saint-Jean. Je lui ferai un reproche. Dans toutes les lettres qu'il reproduit, il n'a pas cité ce qui est pour moi la plus belle lettre de Vauban que je voudrais vous lire. D'abord parce que c'est un plaisir que de se mettre en bouche une langue française de cette qualité. Et j'ai donné 100 fois cette lettre à commenter à mes élèves de Sciences Po comme exemple du service de l'État et du sens de commandement. Je l'ai trouvé dans un beau livre que je recommande, qui est de Daniel Alévy, de 1923, qui est un essai sur Vauban, qui a été publié dans les Cahiers verts et qu'on trouve encore dans les Cahiers rouges de chez Grasset. C'est une lettre écrite au ministre de la guerre, Louvois, par Vauban, dont deux collaborateurs, ingénieurs, Montguiraud et Volant, avaient été accusés de fausser sur leur compte les mesures de certains ouvrages. Et voilà ce que Vauban écrit à son ministre Louvois. Je précise que Vauban dictait ces lettres. Et c'est pourquoi je vais vous la lire comme il aurait pu la dicter, tellement elle est vive et, encore une fois, d'une langue superbe. La voici. Recevez, s'il vous plaît, toutes leurs plaintes, monseigneur, et les preuves qu'ils offrent de vous donner. Que si vos grandes affaires vous occupent trop, commettez-y quelque honnête homme, qui examine bien toutes choses à fond, et vous en rende compte après. Ne craignez point d'abîmer Montguiraud et Volant, je suis bien sûr qu'ils n'appréhendent rien là-dessus, mais quand cela serait, pour un perdu, de recouvrer. Quant à moi, qui ne suis pas moins accusé qu'eux, et qui peut-être suis encore plus coupable, je vous supplie et vous conjure, monseigneur, si vous avez quelque bonté pour moi, d'écouter tout ce qu'on vous pourra dire contre et d'approfondir afin d'en découvrir la vérité. Et si je suis trouvé coupable, comme j'ai l'honneur de vous approcher de plus près que les autres, et que vous m'honorez de votre confiance plus particulière, j'en mérite une bien plus sévère punition. Cela veut dire que si les autres méritent le fouet, je mérite du moins la corde. J'en prononce moi-même l'arrêt, sur lequel je ne veux ni quartier ni grâce. Mais aussi, si mes accusateurs ne peuvent pas prouver ou qu'ils prouvent mal, je prétends qu'on exerce sur eux la même justice que je demande pour moi. Et sur cela, monseigneur, je prendrai la liberté de vous dire que les affaires sont trop avancées pour en demeurer là, car je suis accusé par des gens dont je saurai le nom, qui ont semé de très méchants bruits sur moi, si bien qu'il est nécessaire que j'en sois justifié à toute rigueur. En un mot, monseigneur, vous jugez bien que, n'approfondissant point cette affaire, vous ne sauriez rendre justice. Et ne me la rendant point, ce serait m'obliger à chercher les moyens de me la faire moi-même et d'abandonner pour jamais la fortification et toutes ses dépendances. Examinez donc hardiment et sévèrement, bas toute tendresse, car j'ose bien vous dire que sur le fait d'une probité très exacte et d'une fidélité sincère, je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble. La fortune m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France, mais en récompense, elle m'a honoré d'un cœur sincère et exempt de toutes sortes de prifonneries qui ne peut même souffrir l'imagination sans horreur. Et là-dessus, je suis, monseigneur, avec le plus profond respect du monde, votre très humble, très obéissant et obligé serviteur. Signé, Vauban.